Le MAG sur Radio Lacaune.
Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Delrieux. Il est chargé d'études pour le Tarn, l'antenne tarnaise et au Languedoc du CEN. C'est le Conservatoire d'Espaces Naturels. Alors, Occitanie, Midi-Pyrénées, hein, ça vient juste de changer de nom. Donc, bonjour Nicolas, merci d'être avec nous.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir.
Alors Nicolas, vous êtes, j'allais dire, tout frais un petit peu sur le territoire, parce qu'on connaissait bien sûr Frédéric Néry, que vous remplacez, qui est parti à la retraite. Et donc, vous avez repris un petit peu en charge son travail.
Mais c'est ça, je suis relativement frais dans la structure et j'étais, comme on dit, le padawan de Frédéric Néry, donc le premier salarié du conservatoire, oui.
Donc ben, maintenant, on vous aura peut-être régulièrement sur notre antenne pour parler des actions du conservatoire, notamment sur le Tarn. Et alors, on va bien sûr parler de ce qui nous touche au plus près, c'est les tourbières dont vous avez la charge. Alors déjà, on va planter le décor. Qu'est-ce que c'est qu'une tourbière pour ceux qui ne sauraient pas?
Alors, si vous voulez, une tourbière, c'est un site qui accumule de l'eau, en fait, si vous voulez, par ruissellement et par accumulation des cours d'eau qui viennent confluer dans des zones donc tourbeuse, donc c'est des zones humides avec une végétation particulière et qui a la capacité de stocker cette eau, la purifier et, si vous voulez, gérer ces niveaux d'eau. En hiver, elle va accumuler cette eau et du coup limiter les phénomènes de crue, et en été, elle va faire un effet de restitution grâce, elle fonctionne un petit peu comme une éponge. Et si vous voulez, avec un climat très froid et un sol très acide, la particularité de ces zones, c'est qu'elles accueillent des habitats et des espèces très particulières à ces milieux tourbeux.
Et alors, je dis que ça nous touche particulièrement parce que les tourbières dans le Tarn, elles sont surtout situées sur les monts de la Cône et enfin, le Haut-Languedoc, sur les hauteurs, puisque vous le disiez, il y a aussi cette fraîcheur, enfin, ce froid.
C'est ça, la majorité des tourbières, pour pas dire toutes,
hein,
sont situées dans les monts de la Cône. Et aujourd'hui, oui, c'est vraiment un enjeu majeur dans notre région de les conserver, puisqu'il faut savoir qu'en une cinquantaine d'années, on a à peu près perdu à l'échelle nationale 70% de nos zones humides. Donc c'est vraiment un enjeu majeur un enjeu encore hydraulique qui est important, mais aussi un enjeu biodiversité avec des espèces très particulières.
On va en parler de ces espèces, mais on va rester un petit peu sur l'aspect aussi hydraulique, comme vous le disiez. 70% des tourbières en France qui auraient disparu, elles avaient un petit peu mauvaise presse aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'on les a soit asséchées, soit qu'elles se soient asséchées seules?
Mais si vous voulez, à l'époque, on n'arrivait pas encore vraiment à cibler l'intérêt de ces zones-là, et puis c'était souvent des zones qui étaient relativement plates, donc propices à l'agriculture ou même à la sylviculture. Donc, si vous voulez, elles ont un petit peu subi les effets de l'industrialisation de l'agriculture ou même de la sylviculture.
Oui.
Donc on a drainé ces zones, on les a curées, voire même exploitées pour certaines régions pour en faire du terreau, des choses comme ça, quoi.
D'accord. Donc, et aujourd'hui, est-ce que, on va dire, les habitants, les propriétaires voient l'intérêt de ces zones humides? Est-ce que vous arrivez à faire passer ce message-là?
Ben, petit à petit, oui, on arrive à faire comprendre aux gens, et puis je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à l'intérêt de ces zones-là, et on le voit ne serait-ce que par les surfaces qu'on gère qui s'accumulent d'année en année, quoi.
Alors justement, combien de surfaces vous gérez sur les monts de la Cône de tourbières, hein,
zone humide, c'est l'équivalent à peu près de 130 hectares qu'on a en propriété ou en convention avec des propriétaires.
D'accord, donc sur ces zones, comment ça se passe pour remettre en état la tourbière ou la zone humide? Est-ce que, je suppose que quand vous les avez récupérées, elles n'étaient pas forcément comme elles le sont aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été mis en place pour vraiment les préserver?
Alors, si vous voulez, l'étape initiale dans le bon déroulé d'une gestion de site naturel, mais là de tourbière en l'occurrence, c'est une phase initiale d'inventaire. Donc, si vous voulez, on va parcourir la on va parcourir donc la tourbière pour le cas présent, et on va essayer de caractériser et d'identifier toutes les espèces et habitats présentes sur cette zone. Et en fonction des enjeux qu'on va ressortir de ces inventaires, on va définir une gestion adéquate. Donc cette gestion, elle peut se faire soit manuellement, soit via du pastoralisme, d'où l'intérêt pour nous d'avoir un troupeau de vaches. Donc le choix entre la gestion manuelle et le pastoralisme va surtout dépendre en fait de la sensibilité du site à la pression pastorale. Donc il y a des espèces qui sont d'intérêt communautaire, donc on va dire protégées à l'échelle européenne, qui ne supportent pas du tout le piétinement et l'abrutissement des bêtes. Donc là, il n'y a pas d'intérêt pour nous à y mettre des animaux. Par contre, dès qu'on voit qu'il y a un intérêt et qu'il n'y a pas forcément d'enjeu de pastoralisme sur ce site-là, mais là, on va pouvoir mettre des vaches, donc ici des Highland Cattle qui sont bien adaptées au site, pour pouvoir faire de la réouverture de milieu, donc c'est-à-dire essayer de limiter les effets des arbres et des arbustes pour retrouver un effet de zone ouverte, pardon.
Oui, parce que j'allais le dire, les tourbières, en fait, c'est des zones ouvertes qui ont l'air. Si on y va l'hiver, ça a l'air un petit peu mort, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ce n'est pas joli, hein. Je le conçois. Mais qui, en fait, au printemps, vont se révéler avec beaucoup d'espèces animales, beaucoup d'espèces végétales. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot justement de la biodiversité que l'on retrouve dans ces zones, qui est vraiment, mais vraiment riche? Moi, j'invite les gens. Il y a des randonnées, notamment, je pense à la randonnée de Canroute, sur la tourbière de Canroute, à aller la faire. Je crois que en plus, c'est le bon moment, je dirais, actuellement.
Oui, c'est la bonne période. On va dire c'est la période la plus intéressante, parce que
La
la
plus
faune et
vivante.
la flore est en train de se révéler, comme vous disiez. Mais voilà, pour les gens qui connaissent pas vraiment ces habitats-là, c'est très très particulier, puisqu'on a des sols très très acides et très froids, donc avec très peu d'oxygène, donc quasi pas de décomposition de la matière organique. Et de ces effets-là, on a vraiment une végétation particulière, mais une faune associée à cette végétation qui l'est tout autant. Donc, c'est vraiment des petits joyaux qu'on a dans notre département et qu'on essaye, voilà, de conserver ou de restaurer.
Le MAG, c'est Radio Lacaune.
C'est la seconde partie du MAG et je suis avec Nicolas Delrieux, chargé d'études pour le Tarn et le Haut-Languedoc au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Alors Nicolas Delrieux, je vous reçois puisque nous parlons des tourbières qui sont propriétés ou qui sont gérées par le Conservatoire. On a parlé du troupeau hein, de vaches qui fait donc du pastoralisme sur ces tourbières. On va aussi parler de leur biodiversité qui est très riche. On pense aux amphibiens, on pense aussi aux plantes et notamment aux plantes carnivores que l'on y trouve. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, c'est ça. Alors la Drosera, qui est une espèce inféodée, donc ça veut dire qu'on va la retrouver que dans ce milieu-là, inféodée aux tourbières. Et puis voilà, tout un cortège de libellules, de papillons qui est très spécifique, avec notamment la présence du damier de la succise, donc qui est pareil, un papillon inféodé au milieu humide, donc pas forcément aux tourbières, mais au milieu humide en général. Et puis voilà, tout un tas de plantes qui sont d'intérêt européen, avec des enjeux de conservation énormes. Donc voilà, c'est vraiment des petits joyaux.
Et est-ce qu'on voit, depuis que vous vous occupez, enfin que le conservatoire hein, s'occupe de ces zones-là, est-ce qu'on voit en retour de certaines espèces? Est-ce qu'on voit aussi peut-être une plus grande quantité, vraiment en termes de quantité, de certaines espèces qui sont vraiment, vous le disiez, liées à ces milieux-là, quoi?
Oui, sachant qu'en plus maintenant on a un retour qui est un retour d'expérience assez intéressant, puisque sur les premiers sites en gestion, notamment la tourbière de Canroute, on a plus d'une vingtaine d'années
De recul.
de retour de gestion là-dessus. Donc on a vu un effet améliorant de nos pratiques de gestion sur la réponse du site. Donc quand je parle de réponse, je parle de diversité spécifique. Alors, on a de plus en plus d'espèces, mais mais aussi beaucoup plus d'habitats différents et d'habitats associés à ces milieux tourbeux. Donc oui, il y a un effet positif. Il n'est pas forcément sur tous les sites à un instant T. J'essaie de m'expliquer, c'est-à-dire que les effets, on ne les voit pas
Immédiatement.
sur une année. Et puis, je vous dis, sur 20 ans de gestion, il y a toujours des petits ajustements à faire. Et ces ajustements, ils se font en prenant en considération les espèces présentes sur le site.
Donc c'est vraiment tout le temps un travail, un regard, vraiment toujours une observation du terrain et de la façon dont il évolue, je suppose, c'est.
C'est ça, c'est une observation premièrement de la ressource fourragère quand on met le troupeau sur le site, ça c'est la base. Mais on va regarder surtout et avant de mettre les animaux et de définir des pressions pastorales, on va regarder la réponse du site à nos pratiques de gestion. Est-ce que cette réponse elle est positive aux objectifs qu'on s'est fixés initialement? Ou est-ce qu'il y a des ajustements à mettre? Et des ajustements, il y en a tout le temps. Donc, on essaye de faire au mieux.
Donc, on n'hésite pas à aller se renseigner un petit peu sur ce que vous faites ou aller ben justement visiter. Alors, je parle de la randonnée de Camp Route, puisqu'elle est super bien balisée, elle n'est pas très longue, elle est familiale, elle est très agréable. Donc, on n'hésite pas là aussi si on ne connaît pas le milieu. C'est vraiment, vous le disiez aussi, un lieu qui est géré depuis une vingtaine d'années, donc qui revit littéralement. Un mot peut-être juste sur le troupeau de vaches. On en parlait il y a quelques jours avec une de vos collègues. L'opération Adopte un veau. Si vous voulez aider toujours le Conservatoire d'espaces naturels, ben vous pouvez aller adopter un veau. Il viendra pas chez vous, il restera dans les tourbières. Il continuera à les gérer. Est-ce que ça aussi, c'était important, la race qui a été mise en place, parce que c'est une vache écossaise hein, qui est là, qui en fait a un piétinement qui est particulier par rapport à la zone, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est la vache la plus adaptée à nos objectifs et sur les sites dans lesquels on va les faire travailler, puisqu'elles ont des caractéristiques physiques très particulières elles aussi. Donc voilà, vous l'aviez dit, c'est des vaches qui sont d'origine écossaise. Donc elles sont très légères, très petites, elles ont de longues cornes qui leur permettent de casser de la végétation, vraiment de faire un travail de dégagement. Et puis ben voilà, la caractéristique de ces tourbières, c'est d'avoir un sol très humide et très léger, donc avec un enfoncement important. Et ces vaches-là, de par leur poids et surtout leur sabot qui est proportionnellement plus grand par rapport à leur taille, ça leur permet d'avoir une portance accrue sur ces zones-là. Donc de pouvoir naviguer beaucoup plus facilement que d'autres races plus traditionnelles, on va dire.
Et est-ce que là, en ce moment, elles sont retournées sur les tourbières parce qu'elles passent pas l'hiver là? Est-ce qu'elles sont, ça y est, de retour?
Alors on est un peu sur les starting blocks.
Ah, c'est imminent.
La végétation a mis pas mal de temps à sortir, dû un peu au déficit hydrique qu'on a eu. Mais là, bon, voilà, on est en train de bien se rattraper avec ces épisodes de pluie et de soleil avec des températures en hausse. Ça fait bien sortir la végétation. Donc là, on est en train de finaliser la restauration de tous les parcs avant de pouvoir accueillir les vaches comme tous les ans.
Bon, allez, elles vont arriver incessamment sous peu. Donc, si vous voulez aller vous promener, vous pourrez bientôt les voir. Juste avant de terminer, je le disais à un moment dans l'interview, c'est que ces zones-là avaient aussi une mauvaise réputation, notamment à cause de l'enfoncement. On disait qu'on pouvait y disparaître. Il y avait un petit peu une légende autour de ça. Est-ce que la vie du voisinage a changé? Est-ce que on voit vraiment l'intérêt? Enfin, notamment avec les périodes de sécheresse que l'on connaît, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit, entre guillemets, sur ces zones-là? Enfin, c'est compliqué à définir, mais est-ce qu'elles ont meilleure réputation? Est-ce qu'on les connaît mieux surtout?
Alors, sur l'aspect de la réputation, là, vous m'apprenez quelque chose.
Vous ne le saviez pas.
Je connaissais certains mythes et légendes, mais celle-là, non, je la connaissais pas.
On mais risque rien. Contre,
non, rassurez-moi, rien du tout. Moi, je m'y balade. J'y suis toute la journée dessus avec les équipes techniques. Donc, non, il y a aucun souci. On a toujours retrouvé tout le monde.
Bon, ça va.
mais par contre, oui, surtout vis-à-vis, en fait, si vous voulez, des professionnels du milieu agricole, hein, on voit qu'ils ont un regard différent vis-à-vis de ces zones-là qui étaient un peu délaissées, notamment pour le pâturage. On voit qu'il y a un changement de regard sur ces zones parce qu'on s'aperçoit, ben, vous l'aviez dit, c'était un peu ce que j'avais sur le bout de la langue, que ben, même dans nos contrées, en été, la végétation souffre quand même de ces déficits hydriques. Et les tourbières restent quant à elles très humides avec une végétation assez grasse qui est super pour les animaux. Donc on voit qu'il y a quand même des prises de conscience et certains éleveurs n'hésitent même pas maintenant à acquérir ou à faire pâturer des animaux sur leur tourbière. Donc c'est une très bonne chose et ils contribuent aussi à la restauration de ce patrimoine naturel.
Donc on le voit de plus en plus. Alors moi j'invite vraiment tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à aller découvrir ce milieu qui est un milieu très particulier. Enfin, c'est des paysages, on ne soupçonne pas qu'ils soient si proches de chez nous. Finalement, c'est des paysages un petit peu de carte postale, hein, vraiment. Et vraiment aller le découvrir parce que c'est aussi comme ça qu'on peut maintenir des milieux, c'est en les connaissant et en les découvrant et en faisant la publicité. C'est pas une agence de voyage non plus, mais voilà, n'hésitez vraiment pas, une belle randonnée à faire. Donc, à Conroute, je crois qu'il y en a d'autres, et puis il y a des panneaux d'information, des choses
oui,
à expliquer.
Puis, Conroute, c'est un site un peu vitrine, bon, premièrement parce que c'est une des plus belles tourbières de la région Occitanie, mais aussi parce qu'elle jouit de plusieurs statuts. Elle est propriété du conservatoire, elle fait partie du zone Natura 2000. Mais elle est aussi inscrite dans le schéma départemental des espaces naturels sensibles du Tarn. Donc, si vous voulez, elle a différents statuts et c'est vraiment intéressant d'aller sur ce site-là parce qu'on a une faune et une flore très intéressantes. On a un habitat très particulier, mais qui jouit de plusieurs statuts de protection et de gestion. Donc, c'est vraiment le bon exemple de la gestion des milieux humides dans notre région.
Bon, ben parfait. Ben je vous invite. Alors on n'a pas dit, mais c'est situé. On parle des Monts de la Cône. C'est situé sur la commune du Marniès. Voilà.
Oui. Commune du Marniès, voilà. Qui est maintenant la commune de Font-Rieu.
Commune de Font-Rieu. Donc ben voilà. Après la trois voies, vous prenez donc la direction. C'est très bien indiqué. Vous trouverez facilement. Merci beaucoup, hein, Nicolas Delrue, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio La Cône.
Merci à vous.